Chapitre 8. Il apparaît. Après un assez long intervalle de repos, Merci fut réveillé par le bruit d'une porte vitrée que l'on fermait au fond du jardin d'hiver. Cette porte, ouvrant sur le jardin, ne servait qu'aux domestiques de la maison ou à de vieux amis qui jouissaient du privilège d'entrer par la route intime dans les appartements de réception. Merci devait croire que c'était Lady Janet ou bien Horace qui retournait à la salle à manger. Elle se souleva à demi sur le canapé et écouta. La voix d'un des valets de chambre frappa son oreille. Une autre voix lui répondait qui la fit trembler de tous ses membres. Elle s'élança, écouta encore et demeura immobile, muette de terreur. Non, elle ne se trompait point. La voix qui répondait au domestique était bien la même qu'elle avait entendue au refuge et que jamais elle n'avait oubliée. Le visiteur qui venait d'entrer par la porte vitrée, c'était Julian Gray. Ses pas se rapprochaient de la salle à manger. Merci se précipita vers la porte de la bibliothèque, mais sa main était si tremblante qu'elle ne put ouvrir cette porte. Au même instant, elle entendit encore la voix qui lui parlait à elle. « Ne vous en allez pas, je n'ai rien d'effrayant, je ne suis que le neveu de Lady Janet, Julian Gray, » disait-il. Elle se retourna doucement, gagnée, charmée. Il s'était arrêté, le chapeau à la main, à l'entrée du jardin d'hiver. Il était tout vêtu de noir, portant une cravate blanche, mais il semblait avoir pris un soin minutieux d'éviter tout air ecclésiastique dans la façon et la forme de ses vêtements. Si jeune, il portait déjà le stigmate de la pensée sur son visage, et ses cheveux étaient prématurément rares et clairsemés sur son front. Sa taille élancée ne s'élevait pas au-dessus de la moyenne, son teint était pâle, il avait le menton et les joues rasées. Un observateur ordinaire aurait passé près de lui sans le remarquer. Ses yeux pourtant étaient étranges, ses yeux seuls en faisaient un homme digne d'attention. La grandeur extraordinaire des orbites dans lesquelles il se mouvait suffisait à attirer les regards et donnait à sa physionomie un éclat qu'elle n'aurait pas eu sans eux, bien que, d'ailleurs, elle fût puissante et virile. Cette douce flamme dont il brillait défiait l'analyse. Jamais deux personnes n'avaient pu se mettre d'accord ensemble sur leur couleur. Les uns déclaraient qu'ils étaient gris foncé, les autres assuraient qu'ils étaient noirs. Des peintres avaient essayé de les reproduire et y avaient renoncé. Impossible, au reste, de saisir une expression bien définie dans l'étonnante variété d'expressions qu'ils offraient sans cesse. Ces yeux-là pouvaient charmer par certains instants et, dans d'autres, éveiller l'embarras ou la crainte. Ils avaient vraiment le pouvoir de faire rire ou pleurer à volonté. Dans l'action comme dans le repos, ils étaient également irrésistibles. Quand ils aperçurent Merci se précipitant vers la porte de la bibliothèque, ils s'éclairèrent de la gaieté d'un enfant. Mais lorsque la jeune femme se tourna, ils changèrent instantanément, s'adoucirent et s'enflammèrent. Julian Gray venait de ressentir l'intérêt et l'admiration que la fausse Grace éveillait chez tous les hommes dès qu'il la voyait. Aussitôt, le ton et les manières du jeune ecclésiastique s'étaient modifiés, et ce fut avec l'air du plus profond respect qu'il lui dit « Faites-moi l'honneur de reprendre votre place et pardonnez-moi si je me suis sottement présenté devant vous. » Il s'arrêta, attendant sa réponse, avant de faire un pas de plus dans cette chambre. Toujours sous le charme de sa voix, Merci obéit, le salua sans le regarder et alla se rasseoir sur un canapé. Il n'était plus possible de faire autrement. Il la regarda, lui, et il entra. Elle commençait bien à l'embarrasser un peu, presque autant qu'elle l'intéressait. « Ce n'est pas un chagrin vulgaire, pensa-t-il, qui marque de sa griffe le beau visage de cette femme. Ce n'est pas un cœur ordinaire qui bat dans cette poitrine. Qui est cette femme ?» Merci fit appel à son courage et s'efforça de lui parler. « Je crois que Lady Janet est dans la bibliothèque, » dit-elle timidement. « L'avertirai-je que vous êtes là ?» « Ne dérangez pas Lady Janet et ne vous dérangez pas vous-même. » Sur cette réponse, il s'approcha de la table du déjeuner, prit ce que Horace avait laissé de la bouteille de Bordeaux et le versa dans un verre. « Le Bordeaux de ma tante représente ma tante pour le moment, » dit-il en souriant. J'ai fait un long voyage et je me risque, ma foi, à me présenter moi-même dans cette maison sans invitation. Il est bien inutile de vous offrir quelque chose, n'est-ce pas ?» Merci ne répondit que par un signe négatif. Elle le connaissait, elle l'avait vu, entendu, admiré, et pourtant elle s'étonnait encore de l'aisance de ses manières et de son langage. Il vida son verre de l'air d'un homme qui apprécie parfaitement un verre de bon vin et que ce vin réjouit dans son cœur. « Le Bordeaux de ma tante est digne de ma tante, » dit-il avec une gravité comique. « Tous deux sont de vrais produits de la nature. » Ensuite, il fit l'inspection de la table et se mit à regarder d'un air moqueur les différents plats qui la couvraient. L'un d'eux attira particulièrement son attention. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » demanda-t-il. « Un pâté français. Il me semblerait grossièrement injuste de goûter au vin français et de passer devant le pâté français sans lui faire honneur. » Et le voilà, saisissant un couteau et une fourchette, goûtant le pâté en véritable amateur, comme il avait fait pour le vin. « Digne de la grande nation » s'écria-t-il avec enthousiasme. « Vive la France !» Merci le regardait et l'écoutait avec un redoublement de surprise. Julien Gray ne ressemblait guère au portrait que son imagination s'était fait de lui dans la vie ordinaire. Si on lui avait ôté sa cravate blanche, personne n'aurait deviné que c'était là un fameux prédicateur, un ecclésiastique. Il s'offrit une seconde tranche de pâté et s'adressa plus directement à Merci, causant et mangeant tour à tour aussi posément, aussi agréablement, aussi librement que s'il eût connu la jeune fille depuis nombre d'années. « Pour venir ici, dit-il, j'ai passé par les jardins de Kensington. Depuis quelque temps, j'avais vécu dans une campagne affreuse, rien que des plaines ingrates, stériles, où l'on naissait l'agriculture. » Vous ne pouvez vous figurer quel plaisir m'ont fait ces jardins. Les dames dans leurs riches toilettes d'hiver, les gouvernantes coquettes, les charmants enfants, la foule en mouvement et les patineurs sur la glace du rond-point. Tout cela était si gai, après ce que j'avais coutume de voir là-bas, que je me surpris moi-même à chantonner et à siffler. Dans mon temps, les jeunes garçons avaient l'habitude de siffler quand ils étaient de bonne humeur. Je n'ai pas encore perdu cette habitude. « Qui pensez-vous que j'ai rencontré au beau milieu de ma musique ?» Merci s'excusa de ne pouvoir deviner, mais elle ne répondit que par un murmure. Dans le cours de son existence entière, elle n'avait jamais parlé à aucune créature humaine aussi confusément, aussi inintelligiblement qu'elle parlait alors à Julien Gray. Il continua plus gaiement encore, sans paraître remarquer l'effet qu'il produisait sur elle. « Qui ai-je rencontré là tandis que je sifflais » répéta-t-il. « Mon évêque. Si j'avais sifflé une mélodie sacrée, sa seigneurie aurait peut-être excusé mes façons vulgaires en considération du choix de la musique. Par malheur, l'air que j'exécutais en ce moment, et je suis l'un des plus bruyants siffleurs qui existent, était un air de Verdi, la Donna e mobile. Familier sans doute à sa seigneurie qu'il aura entendu exécuter par les orgues sur la voie publique. » Il reconnut l'air, le pauvre homme, et au moment où je jetais mon chapeau pour le saluer, il regardait de l'autre côté. C'est singulier que, dans un monde si rempli de vices et de misères, on traite durement un homme pour une bagatelle. Quel mal fait un joyeux ecclésiastique qui siffle un air connu ? Là-dessus, il repoussa son assiette et continua, mais sérieusement et d'une voix altérée, « Je n'ai jamais compris, dit-il, pourquoi l'on nous considérait comme tenus de nous faire remarquer au milieu des autres hommes. On nous confine dans notre caste et il nous est défendu en toute occasion de faire ce que font les autres. Les maîtres de l'ancienne école ne nous ont pas donné cet exemple et ils étaient plus sages et meilleurs que nous. J'ose affirmer qu'un des plus grands obstacles aux sympathies de nos concitoyens envers nous, c'est notre affectation des façons cléricales, de la voix cléricale, de la tournure cléricale. Quant à moi, je ne prétends nullement être plus sacré ou plus vénérable qu'un autre chrétien qui agit suivant l'Évangile et les lois. » Il jeta un regard à Merci, qui le contemplait avec une attention muette, inerte, désespérée. Un souffle de folle gaieté s'empara alors du jeune prêtre. « Êtes-vous radical ? » demanda-t-il avec un spirituel clignotement dans ses grands yeux éclatants. « Moi, je le suis. » Merci essaya de le comprendre, mais en vain. Était-ce donc là le prédicateur dont la parole l'avait purifié, ennobli ? Était-ce bien l'homme dont le sermon avait arraché des larmes aux femmes qui l'entouraient, et presque toutes éhontées pourtant et endurcies dans le crime ? C'était lui ! Les yeux qui se reposaient en ce moment sur elle avec cette expression de bonne humeur étaient les mêmes beaux yeux qui avaient un jour regardé dans son âme. La voix qui venait de lui adresser cette question ironique était la voix douce et profonde qui avait jadis fait rejaillir tout son être. Dans la chair, c'était un ange de miséricorde. Hors de la chair, c'était un jeune homme à peine échappé des bancs de l'école. « Je crois que je vous effraie un peu, » dit-il, remarquant enfin sa confusion. « L'opinion publique m'a donné des noms plus sévères que celui de radical. J'ai dernièrement passé mon temps, comme je vous le disais tout à l'heure, dans un district agricole. Je n'avais pas autre chose à y faire que de remplir les devoirs du recteur de l'endroit qui avait pris un congé. Comment croyez-vous que l'épreuve s'est terminée ? Le seigneur de la paroisse m'a appelé communiste. » Les fermiers m'ont dénoncé comme un incendiaire. Mon ami le recteur a été rappelé en hâte et celui qui a maintenant l'honneur de vous parler est un banni. Impossible de jamais retourner dans cette paroisse où j'ai voulu faire du bien. On m'y chasserait comme une bête fauve. » Après cet aveu plein de franchise, il quitta la table et prit une chaise qu'il plaça près du divan où Merci était assise. « Vous devez naturellement être curieuse de savoir quel était mon crime, » lui dit-il. « Comprenez-vous l'économie politique et les lois de l'offre et de la demande ?» Merci avoua qu'elle ne les comprenait pas du tout. « Pas plus que je ne les comprends, moi, dans un pays chrétien, » reprit-il. « Eh bien, ce fut là mon crime. Écoutez ma confession. Ma tante aussi l'entendra. Je vais vous la faire en deux mots. » Il s'arrêta un moment. Merci, qu'il regardait timidement, vit une nouvelle expression dans ses yeux. Ah, cette expression-là, c'était la bonne, elle lui rappelait les premiers souvenirs qu'elle avait gardés de lui. Le prédicateur du refuge reparaissait. Avant d'être appelé à remplir les devoirs de recteur, continua-t-il, je n'avais aucune idée de ce qu'était réellement la vie d'un fermier laboureur dans quelque partie de l'Angleterre. Non, je n'avais encore jamais vu de misère aussi épouvantable que celle que je vis dans les chaumières, jamais encore rencontré tant de noble patience à supporter la souffrance que celle qui me frappa parmi ces bonnes gens. Les martyrs de l'ancien temps pouvaient souffrir et mourir. Je me demandais s'ils auraient pu souffrir et vivre, comme les martyrs que je voyais autour de moi vivre de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, face à face avec le spectre de la faim, vivre et voir leurs chétifs enfants grandir autour d'eux pour travailler et manquer de tout à leur tour, vivre avec la prison des pauvres de la paroisse en perspective pour tout avenir quand l'âge et le travail les auront usés. La belle terre de Dieu a-t-elle été créée pour voir une semblable iniquité ? Je puis à peine y penser, je puis à peine en parler, même à présent, les yeux secs. Sa tête s'inclina sur sa poitrine. Ah, Merci le reconnaissait, c'était bien lui, c'était bien l'homme de la consolation et de la douceur. Aussi se tenait-elle là, l'écoutant, les yeux fixés sur son visage, le cœur suspendu à ses lèvres, dans la même attitude justement que le jour d'autrefois, au fond de la chapelle du refuge. « J'ai fait tout ce que j'ai pu pour plaider la cause des abandonnés, » reprit-il. « Je suis allé trouver les possesseurs du sol pour réclamer en faveur des laboureurs du sol. Ces gens manquent de trop de choses, disais-je. Au nom du Christ, donnez-leur à vivre. » L'économie politique poussa un cri à cette horrible proposition. Les lois de l'offre et de la demande voilèrent leur face majestueuse avec horreur. « Les salaires qui empêchent de mourir de faim sont les vrais salaires, m'a-t-on dit. Et pourquoi ? Parce que le laboureur est forcé de les accepter. » Eh bien, je ferai en sorte qu'ils ne soient plus forcés de les accepter. Je réunis alors mes ressources personnelles, j'écrivis à mes amis, j'envoyai quelques-uns de ces pauvres diables dans les parties de l'Angleterre où leur travail devait être mieux payé. Autant d'imprudences qui sont retombées sur ma tête. Je vous le dis, je ne pourrai rentrer dans cette paroisse. Soit, je suis connu à Londres, je puis trouver des souscriptions. Ces honteuses lois de l'offre et de la demande ne rencontreront plus de travailleurs dans ce district agricole et l'impitoyable économie politique sera forcée de dépenser quelques shillings supplémentaires pour les pauvres, aussi vrai que je suis ce radical, ce communiste, cet incendiaire de Julien Gray. » Il se leva, fit un geste pour excuser la chaleur de son discours, puis un tour dans la chambre. Échauffé par l'enthousiasme de Julien Gray, Merci le suivit. Sa bourse était dans sa main lorsqu'il se retourna et se trouva en face d'elle. « Acceptez mon petit tribut !» dit-elle vivement. Une rougeur passagère montait à ses joues pâles tandis qu'il la regardait. « Non, non, dit-il en souriant, quoique je sois un ministre de notre Église, je ne traîne pas partout avec moi mon aumônière. » Merci essaya de lui faire prendre sa bourse. « Ne me tentez pas, dit-il, la plus fragile de toutes les créatures humaines est un ecclésiastique tenté par une souscription. » Merci insistait et finit par l'emporter. Il prouva bien lui-même la vérité de son observation sur la nature humaine cléricale en prenant une pièce de monnaie dans la bourse. « Puisqu'il faut que je prenne, je prends, dit-il. Merci pour le bon exemple que vous donnez. Merci pour le secours que vous offrez avec votre cœur. » « Quel nom mettrai-je sur ma liste ?» Les yeux de Merci se baissèrent. « Pas de nom, dit-elle à voix basse. Ma souscription est anonyme. » Comme elle parlait encore, la porte de la bibliothèque s'ouvrit. À son extrême soulagement et au secret désappointement de Julianne, Lady Janet Roy et Horace Holmcroft rentraient ensemble dans la salle. « Julianne !» s'écria Lady Janet en joignant les mains avec surprise. Il embrassa sa tante sur les joues. « Votre seigneurie a un air charmant de bonne santé. » Il donna la main à Horace. Horace la serra distraitement et se dirigea vers Merci. Julianne saisit avec empressement l'occasion qui lui permettait de causer un instant en particulier avec sa tante. « Je suis arrivé par le jardin d'hiver, dit-il. J'ai trouvé cette jeune personne dans la salle. Qui est-elle donc ?» Prenez-vous vraiment si grand intérêt à elle ? Demanda Lady Janet de son ton sérieusement ironique. Julianne répondit par deux mots significatifs : immensément d'intérêt. Lady Janet appela Merci. Ma chère, dit-elle, je vous présente officiellement mon neveu. Julianne, Mademoiselle Grace Roseberry. Elle s'arrêta soudain. Au moment où elle avait prononcé ce nom, Julien avait tressailli comme s'il était frappé de surprise. Qu'avez-vous donc ? Demanda brusquement Lady Janet. Rien, répondit-il en saluant Merci. Mais il avait subitement perdu l'aisance de ses manières. Merci lui rendit ce salut avec plus de contrainte encore. Elle aussi l'avait bien vu tressaillir quand Lady Janet avait prononcé le nom Grace Roseberry. Est-ce qu'il avait connu la vraie Grace ? Pourquoi, après l'avoir saluée, s'était-il détourné, parlant à Horace d'un air si étrange, comme si ses pensées étaient sûrement loin de ses paroles ? Un changement marqué s'était opéré en lui, et ce changement avait bien eu lieu au moment même où sa tante prononçait le nom, qui n'était pas son nom, ce nom qu'elle avait volé. Mais Lady Janet réclama l'attention de Julianne, laissant Horace libre de retourner près de Merci. « Votre chambre est prête, dit-elle à son neveu. Vous resterez ici, bien entendu ?» Julianne accepta l'invitation, mais toujours avec l'air d'un homme dont l'esprit est absorbé. Au lieu de regarder sa tante en lui répondant, il jeta un coup d'œil furtif sur Merci. Une curiosité inquiète se lisait sur son visage. Lady Janet le frappa à l'épaule avec impatience. « J'aime qu'on me regarde quand on me parle, dit-elle. Pourquoi regardez-vous ainsi ma fille adoptive ?»« Votre fille adoptive ?» répéta Julianne. Et il regarda sa tante cette fois, il la regarda même très sérieusement. « Certainement, c'est la fille du colonel Roseberry et ma parente par alliance. » « Pensiez-vous que j'avais ramassé une enfant trouvée ?» La physionomie de Julianne s'éclaircit. Il paraissait soulagé. « J'avais oublié le colonel, répondit-il. Naturellement, cette jeune fille est notre parente. » Charmée de vous avoir convaincu que Grace n'est pas une aventurière, dit Lady Janet avec une humilité moqueuse. Elle prit le bras de Julian et l'attirant plus loin d'Horace et de Mercy. Je veux vous parler de votre lettre, continua-t-elle. Elle contient une ligne qui a excité ma curiosité. Quelle est cette dame mystérieuse que vous voulez me présenter ? Julian tressaillit et changea de couleur. Je ne puis vous le dire à présent, balbutia-t-il. Pourquoi pas ? Au grand ébahissement de Lady Janet, au lieu de lui répondre, Julian regarda encore une fois sa fille adoptive à la dérobée. Mais qu'a donc à faire Grace en tout ceci ? Demanda la vieille dame, perdant toute patience. Il m'est impossible de vous répondre, répondit-il gravement, tant que Mademoiselle Rosemary sera dans cette chambre.